C'est moi, maître.
Et où vous croyez-vous ?
À l'opéra, maître.
L'opéra de Paris, toute une histoire. Deuxième épisode, la vraie nature des bouffons. Être compositeur d'opéra, c'était mon rêve absolu. Aujourd'hui, que j'arrive à 66 ans, herborisant paisiblement en ma retraite d'Ermenonville, je peux au moins me vanter d'avoir contribué à écrire l'une des pages les plus mouvementées, les plus féroces, les plus bruyantes que connut l'histoire de l'opéra français. Permettez donc à votre bon Jean-Jacques Rousseau, que certains ont tant aimé haïr, de revenir un moment sur cet épisode très brièvement esquissé dans mes confessions, la querelle des bouffons. Un nom qui fleure bon l'oxymore, qui contient un ouragan de controverses, libelles, pamphlets en tout genre, qui mirent à bas en 2 ans l'ancien modèle de l'opéra français et fit souffler sur le paysage musical de ce royaume de France un vent révolutionnaire. Si j'ai tant voulu devenir compositeur d'opéra, c'est pour en changer les traditions. Je m'explique. L'Académie royale de musique coulait des jours heureux depuis près de 8 décennies, depuis que Lully l'avait officiellement établie en 1673 dans la salle du Palais royal, L Est, à Paris, près du Louvre. Ainsi, cette académie se trouvait régnant au cœur de la cité, au cœur palpitant de la vie mondaine. Versailles paraissait désormais bien loin, bien ennuyeux. Oui, c'était bien le Palais Royal qui, depuis la régence de Philippe d'Orléans, donnait le ton. C'est là que le tout Paris venait communier dans cet amour ardent de l'opéra. C'était devenu un sujet profondément sérieux, en somme, à force d'être le principal divertissement de la cour et du peuple. Et pourtant, on ne cessait de rebattre leurs oreilles des mêmes grandeurs surannées de dieux, de déesses, de rois et de reines aux aventures improbables, mais permettant les effets les plus spectaculaires. Les opéras de messieurs Lully, Marais, Campra et consorts étaient sans cesse remontés, réadaptés, resservés à un public dont l'esprit, lui, s'offrait à de nouvelles lumières. Il allait falloir que cela change. En vérité, une certaine lassitude couvait déjà depuis quelque temps. Et cela prit d'abord une forme étrange. Souvenez-vous, quand M. Rameau fit entendre sur la scène de l'Académie royale de musique sa première tragédie lyrique, Hippolyte et Aricie. Ce triste homme de science aurait peut-être mieux fait de rester dans l'obscurité de son étude, comme il l'avait fait durant 50 ans. Mais non, il tint à en faire des démonstrations sur scène et jusqu'à l'écœurement. Par une débauche de complexités harmoniques, par l'enflure orchestrale de ses récitatifs, de ses chœurs, de ses danses, il y a dans cet opéra assez de musique pour en faire 10, suffoquait le vieux Campra entre admiration et effroi. Pourtant, nous n'étions qu'en 1733. Mais quel bruit déjà cela fit! Car oui, l'opéra, la musique en général, était devenue une passion sociale, un sujet politique, l'objet de discussions et de controverses philosophiques sans fin dans les salons et les cafés à la mode. Alors, aussitôt qu'Hippolyte et Aricie fut représenté, on vit se soulever contre le parti ramiste l'armée des lullistes, défenseurs effarouchés de la noble et ancienne tragédie lyrique, outrés de voir la science froide et rationalisante de Rameau phagocyter la grâce et la prétendue simplicité du grand modèle. Ah ah oui, quel bruit cela fit! Quant à moi, Jean-Jacques Rousseau, je me divertissais bien à constater que les deux faces d'un même visage tout défraîchi affectaient de rivaliser l'une avec l'autre. Certes, je n'étais pas mécontent de voir M. Rameau se faire étriller, car j'avais dû souffrir ses rebuffades quand je lui exposais mes premiers essais de musicien chez le fermier général La Pouplinière. Je reconnaissais son génie, mais lui récusait le mien. J'allais lui en garder rancune, une de ces rancunes recuites des fréquentations de salon qui se réglaient alors à coups de plumes acérées. J'attendais mon heure, car il sut s'imposer ce diable de théoricien, ce sec échalas de cabinet. Il nous les a servis, ces admirables et édifiantes leçons d'harmonie. Pendant 20 ans, ce sont ses œuvres qui ont occupé notre scène lyrique, de triomphe en triomphe, les Ânes Galantes, Castor et Pollux, Dardanus, Platée, Zoroastre. Tous les 2 ans environ, la salle du Palais Royal était saturée de solennités mythologiques. Et moi, j'étouffais. Et j'aiguisais ma plume. Thank you. je trouvais que la seule respiration possible à Paris, c'était du côté des Italiens qu'on pouvait la trouver. C'est le peuple qui fit d'ailleurs entrer à l'Académie royale les charmes de la bouffa italienne, qu'il goûtait depuis toujours sur les tréteaux des foires. Le verre était donc dans la pomme depuis longtemps. Car pourquoi diantre la France s'obstinait-elle à repousser leur influence bienfaitrice? Elle les cantonnait aux intermèdes ou intermezzo, tâchant vainement de défendre son précaré. C'était pourtant peine perdue. L'Europe elle-même, en ces temps-là, l'Europe entière, était déjà acquise à la musique italienne. Seule la France, que dis-je, seule une certaine société parisienne rétrograde et courtisane se raidissait, se glaçait, se bouchait les oreilles dans son stupide orgueil, alors même que le public bâillait de plus en plus ouvertement devant ces sacro-saintes tragédies lyriques. C'était tout un monde ancien qui s'arrimait à ses fétiches. C'est alors que la querelle prit feu sans prévenir, en plein cœur de l'été 1752, dans la chaleur d'août, lorsque l'Académie royale condescendit à faire jouer la troupe des bouffons italiens de Bambini de retour à Paris pour sa troisième tournée. Et pourquoi, pensez-vous, le feu prit-il cette fois plutôt qu'une autre? Les bouffons, habiles dans la veine comique, étaient certes inventifs, mais piètres artistes à mes yeux, je dois le reconnaître. Quant à l'orchestre de l'Académie, il était très ignorant de leur style et il estropia à plaisir les pièces qu'ils donnèrent. Parmi celles-ci, cette Serva Padrona, charmante intermezzo du napolitain Pergolèse, qui n'était pas même neuve, non, puisque son auteur avait achevé sa trop courte vie plus de 15 ans auparavant. Mais cette fois-ci, les oreilles se débouchèrent. La fronde du public enfla et gronda pendant plusieurs mois. C'était invraisemblable, oui, invraisemblable. On ne pouvait plus désormais endurer la traînerie de la musique française, après l'accent vif et marqué de l'italienne. Comment résister au charme immédiat, à la simplicité naturelle, au langage du cœur qui enfin résonnait sur scène? Sitôt que les bouffons avaient fini, tout le monde s'en allait. On fut même forcé de changer l'ordre et de mettre les bouffons à la fin. On donnait Euglé, le Sylphe, rien ne tenait. Si on eût mis Mondonville ou Rameau à pareille épreuve, eux aussi fussent sortis en lambeaux. De mon côté, j'eus mon heure de triomphe, si surprenante pour moi, en faisant jouer devant la cour à Fontainebleau, en 1752, mon devin du village, un petit intermède troussé entre style italien et langue française. Eh bien moi, Jean-Jacques, j'avais en fait rencontré les attentes. C'était ça qu'on voulait à présent, de la simplicité. Fini les intrigues complexes, fini la mythologie. Deux ou trois personnages, une intrigue dépouillée, des mélodies pures, la voix du cœur. Dès le lendemain de la représentation, le roi lui-même, ne cessait de chanter avec la voix la plus fausse du royaume, certes. J'ai perdu tout mon bonheur, j'ai perdu mon serviteur. « Paris, on s'était déjà mis en ordre de bataille, et ce fut épique. Un parti, plus puissant, plus nombreux, composé des grands, des riches et des femmes, soutenait la musique française. L'autre, plus vif, plus fier, plus enthousiaste, était composé des vrais connaisseurs, des gens à talent, des hommes de génie. Ai-je besoin de citer les noms ? C'était nous, les encyclopédistes de la première heure, qui emportions le flambeau. Diderot, d'Alembert, le baron d'Holbach, Grimm, Cazotte, votre serviteur et d'autres. Notre petit peloton se rassemblait à l'opéra sous la loge de la reine, la bonne Marie Leczinska. Il défendait la primauté de la mélodie sur l'harmonie, de la nature sur la science, de la sensibilité sur la raison. L'autre partie remplissait tout le reste du parterre et de la salle, mais son foyer principal était sous la loge du roi, Louis XV, le bien-aimé, toujours suivi de sa marquise, la Pompadour. Voilà d'où vinrent ces noms, célèbres en ces temps-là, de « coin du roi » et de « coin de la reine ». Et l'on se mit à tirer dans tous les sens. La guerre des coins était déclarée. Le coin du roi voulut plaisanter ? Aussitôt, il fut moqué par Grimm dans son pamphlet « Le petit prophète de Beumisch Broda ». Puis il voulut se mêler de raisonner. Il fut écrasé par ma « lettre sur la musique française ». D'ailleurs, je ne résiste pas au plaisir de vous en lire l'envoi final. Vous jugerez sur pièce l'effet qu'il put produire. Je crois avoir fait voir qu'il n'y a ni mesure ni mélodie dans la musique française parce que la langue n'en est pas susceptible, que le chant français n'est qu'un aboiement continuel insupportable à toute oreille non prévenue, que l'harmonie en est brute, sans expression et sentant uniquement son remplissage d'écoliers, que les airs français ne sont point des airs, que le récitatif français n'est point du récitatif, d'où je conclus que les Français n'ont point de musique et n'en peuvent avoir. Ou que si jamais ils en ont une, ce sera tant pis pour eux. Fin de ma citation. À peine cette brochure parut-elle, à l'instant, toutes les autres querelles furent oubliées. On ne songea qu'au péril de la musique française et il n'y eut plus de soulèvement que contre moi, Jean-Jacques Rousseau. Il fut tel que la nation n'en est jamais bien revenue. À la cour, on ne balançait pour moi qu'entre la Bastille et l'exil, et la lettre de cachet allait être expédiée si l'on en avait senti in extremis le ridicule de la situation. D'Alembert a vu juste. Il y a chez toutes les nations deux choses qu'on doit respecter, la religion et le gouvernement. On pourrait ajouter qu'en France, il en est une troisième, la musique du pays. Mais la musique, dorénavant, n'est plus le seul divertissement des princes. Elle est devenue une affaire d'État. Chacun peut y avoir son mot à dire. C'est l'heure du grand raz-de-marée démocratique porté par nous autres, les encyclopédistes. Du côté du roi, le désormais plus que chenu monsieur Rameau, d'une vaillance qui ne pouvait qu'emporter notre secrète admiration, a ferraillé jusqu'au bout, infatigable, maniaque même. Diderot l'accable. Sa femme et sa fille n'ont qu'à mourir quand elles voudront, pourvu que les cloches de la paroisse qui sonneront pour elles continuent de résonner la 12e ou la 17e, tout ira bien. Il a bel et bien poursuivi son œuvre, ce Rameau, soutenu la polémique, publié ses « Erreurs sur la musique dans l'encyclopédie » et, je dois l'admettre, composé de nouveaux chefs-d'œuvre, nous défiant jusqu'au bout. Mais après lui, qui pourrait reprendre le flambeau de cette esthétique perdue? La musique française de l'ancien monde ne survivra pas. L'opéra français a définitivement changé de face, d'optique, d'esthétique. On aurait pu croire le grand drame achevé après ces 2 ans de querelle. Un troisième acte se dessine pourtant, une sorte de vague résurgence. Je vois clairement le génie de Monsieur Gluck, déjà auréolé de ses conquêtes européennes. Il avance depuis son haut palatinat natal, ayant déjà marché sur Prague, Vienne, Milan, bien décidé, semble-t-il, à emporter Paris, à ressusciter l'opéra français. Je vois aussi mes anciens amis, les encyclopédistes, le prendre pour nouvelle cible, ce Gluck, et s'obstiner à lui opposer un certain Piccini, Nicolas Piccini, dont la toute jeune reine de France, Marie-Antoinette, s'est elle-même entichée. S'il est son professeur de chant, Piccini, ce brave homme, sera-t-il de taille face à Monsieur Gluck? Ces enragés d'encyclopédistes. La clairvoyance, décidément, n'est peut-être plus trop leur fort. Car il se pourrait bien que M. Gluck soit l'homme à réussir la rupture que j'aurais rêvé amener moi-même. Oui, écoutez son Iphigénie en Aulide, que l'on a donnée à l'Académie il y a 4 ans tout juste, en 1774. Et puis, son Orphée, bien sûr, cette lumière, cette pureté de ligne, cet équilibre entre grandeur et simplicité, entre poésie dramatique et musique. Il se pourrait bien qu'avec lui, en même temps, pour l'opéra français, une vraie révolution soit en marche.
L'Opéra de Paris, toute une histoire. Jérémy Rousseau, France Musique.
Gluck ou Rameau? Les deux, bien sûr. Ils dominent le XVIIIe siècle à l'Opéra de Paris. Les voici dans un florilège d'air et de danse.
Thank you. Oh! Oh!
Nous avons écouté des extraits d'Orphée et Eurydice, Iphigénie en Tauride de Gluck, Hippolyte et Aricie, les Boréades, les Ânes Galantes de Rameau et la Serva Padrona de Pergolèse. Référence à retrouver sur francemusique.fr. L'Opéra de Paris, toute une histoire. Émission préparée par Marion Guillemet. Prise de son et mixage Jean-Michel Bernaud. Réalisation Claire Lagarde. Samedi prochain, troisième épisode, Crimes et châtiments.
France Musique, c'est l'été ?